Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. ¡Gol! William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bola sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic que va a golpear.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu. Aujourd'hui un nouveau numéro avec une très belle affiche dans ce milieu de semaine, mais surtout une nouvelle journée de Liga, la 33e. Déjà on continue d'avancer petit à petit dans cette fin de saison, mine de rien, qui défile à grande vitesse, et surtout les enjeux au tableau qui sont toujours présents, déjà quasiment à tous les étages, mais surtout voilà des équipes qui commencent, voilà, se rapprocher de la fin de saison, qui commencent à rentrer dans un sprint final assez intense, et donc une nouvelle journée de Liga cette semaine. Avant la finale de Copa donc de ce samedi, on va y revenir un peu après, et puis donc la Liga qui continuera ensuite. On va parler donc du match de ce mardi soir entre la Real Sociedad et puis le Real Madrid. Pour parler de la Real Sociedad, on est avec un nouvel invité dans les podcasts, Bidule de la page Real Sociedad France. Salut, comment tu vas?
Ah, écoute, déjà bonjour à tous et je vais très bien. Bonne saison de la Real Sociedad, donc de quoi être de bonne humeur, voilà, donc je vais très bien.
Voilà, bah en tout cas très content de t'accueillir, c'est-à-dire que la Real va mieux depuis quelques temps, on va en reparler juste après. Et puis pour parler du Real Madrid, on est avec Engie de la page Los Madridistas. Salut Engie, comment tu vas?
Salut à tous, je vais plutôt bien, donc voilà. Et puis j'ai encore un plaisir d'être avec vous.
Bah c'est pareil, écoute, très content de te recevoir à nouveau. Donc effectivement, on va commencer à parler de... Alors avant de parler de ce match, on va parler un peu des deux équipes de manière générale, en commençant par la Real Sociedad. C'est vrai que il y avait eu un petit passage à vide, on va dire, après le Mondial, un peu après le Mondial, au mois de janvier, mois de février. Et puis au final, cette équipe s'est reprise, tout simplement. C'est vrai qu'on voyait le Betis qui était revenu, on se souvient, enfin le Betis avant qui était à une dizaine de points, qui était revenu ensuite à seulement quelques points. Il y avait Villarreal aussi qui était pas loin. Au final, quand on regarde le classement maintenant après 32 journées, la Real a creusé l'écart dans le top 4, il y a 5 points d'avance sur Villarreal, 9 sur le Betis, donc finalement on se dit que c'est plutôt bien embarqué pour cette fin de saison, et puis la Ligue des Champions qui se rapproche peu à peu. Est-ce que pour toi on pourrait parler de tournant, ce match, on sait qu'il est évidemment important, mais est-ce qu'on pourrait parler de tournant pour la fin de saison du côté de la Real Sociedad? On sait qu'il va rester plus que 6 matchs, et donc voilà, ce match est un des derniers. Est-ce que toi tu le qualifierais de tournant, et quels sont un peu voilà, les enjeux que tu mets derrière cette rencontre face à Madrid?
Alors oui, t'as tout bien résumé, voilà, on a eu une mauvaise forme un peu après la Coupe du Monde, oui, plutôt vers février-mars. Et oui, pour moi, ce match est un tournant. Tu vois, c'est le tournant de la saison. Après, il nous restera 5 matchs après ce match de demain. On recevra 3 fois, si je ne dis pas de bêtises. Et on aura 2 déplacements compliqués à Barcelone et à chez l'Atlético de Madrid. Donc, pour moi, c'est un tournant de la saison. Ça peut permettre à l'équipe de se mettre en confiance, de se dire que voilà, si on bat le Real Madrid, on mérite cette place dans le top 4. Et donc, voilà. Pour moi, c'est l'occasion de se mettre vraiment en confiance pour aborder le sprint final de la meilleure des manières.
Et justement, est-ce que tu considères en tout cas que la saison de la Real, alors après, on pourra évidemment en discuter en revenant un peu après sur une question tactique, mais de manière générale, la saison de la Real est probablement la meilleure depuis un moment peut-être, parce qu'effectivement, on se souvient que ce qui avait pêché un peu les dernières saisons, c'était justement ce passage à vide de l'hiver à chaque fois qui a un peu cassé l'équipe, et on voit que cette saison, ça va quand même mieux. Est-ce que toi, tu attribue ça plutôt à des causes tactiques, à des causes aussi peut-être de management, peut-être que Imanol a mieux géré son groupe, on va y revenir après, mais déjà, est-ce que toi, tu as un premier avis sur le fait que cette Real, finalement, ait réussi à remettre de l'écart à ses concurrents directs, ce qui, les autres saisons, n'était pas forcément le cas?
Ben pour ça, en fait, c'est assez paradoxal, parce que j'avais fait un peu les comptes par rapport à la saison dernière au nombre de points, et donc avant le match contre Osasuna, et même avec le match, la victoire contre Osasuna, c'est notre dernière victoire vendredi. En fait, on est à peu près le même nombre de points que la saison dernière, à un ou deux points près. Donc, en fait, on n'a pas, on va dire, on n'a pas vraiment fait une, en termes comptables, on n'a pas fait une saison plus incroyable que la saison dernière. Mais je pense, en fait, là, ce qui a notre avantage, c'est que derrière, ça n'avance pas, on a un CV qui n'est pas en forme. Donc en termes comptables, ce n'est pas exceptionnel. Mais après, en fait, je pense que vraiment cette saison, ce qui est bien, c'est qu'on est passé j'en parlerai tout à l'heure, mais en caca de losange, et on produit un jeu bien plus intéressant. Voilà, on marque plus de buts. Au niveau de la défense, c'est toujours aussi solide. Donc voilà, ça nous permet de mieux gérer certains matchs, notamment face à des blocs bas, par exemple.
Ouais, bah tu en parlais justement, la Real qui est la troisième meilleure défense de Liga, 29 buts encaissés en 32 matchs. Il n'y a que le Barça du coup avec 11 buts et puis Atlético avec 25 qui font mieux. Mais c'est vrai qu'effectivement, on va y revenir après sur la question du quatre-tête de losange dont tu parlais à l'instant, qui effectivement peut être un facteur pour expliquer ça. Parce que c'est vrai que quand on voit Villarreal qui fait une saison un peu en demi-teinte, on voit Mikel Setién, c'est une équipe assez imprévisible, capable du meilleur comme du pire. Et puis le Betis effectivement qui connaît quelques passages compliqués depuis un certain temps. Donc, ce qui peut expliquer aussi effectivement cet écart au classement. Et puis on va y revenir après, mais du coup je passe avec toi Angie pour parler du Real Madrid, parce que comme je le disais, il y a cette finale de Copa contre Osasuna qui arrive samedi, il y a ensuite ce match contre Manchester City, la demi-finale aller qui arrive dans une semaine à peine, et puis il y a donc ce match mardi, demain contre la Real Sociedad à 22h. Comment Ancelotti pour toi va aborder ce rendez-vous, parce qu'on sait que voilà, les rencontres s'enchaînent, on sait qu'on est dans une saison particulièrement intense du fait que le calendrier était décalé avec la Coupe du Monde. Et donc voilà, les matchs s'enchaînent, pour moi ce sont des matchs en jeu, parce qu'on parle d'une finale quand même de Coupe d'Espagne que le Real n'a plus gagné depuis 2014, si je dis pas de bêtises, et puis en même temps une demi-finale de Ligue des Champions qui est quand même une que le Real prend au sérieux aussi. Donc pour toi, comment Ancelotti va aborder ce match? Est-ce que tu vois des rotations? Pas spécialement. Voilà, comment toi un peu tu t'imagines voir Ancelotti diriger un peu cette rencontre?
Comme tu l'as dit, ça va être voilà, assez juste, hein, parce que bon, bah, on a la Real Sociedad, la Copa, puis la demi là, contre City. Alors déjà, il y a eu quelques absents là pour l'entraînement ce matin. Donc pas de Vinicius, Modric qui est donc toujours à une gêne, Alaba qui s'entraîne seul, donc c'est pas sûr non plus qu'il soit là. Valverde, il faut voir sa forme, donc il y a beaucoup d'absents. Benzema, c'est pareil, c'est un point d'interrogation. Et j'ai vu qu'il avait convoqué voilà certains jeunes de la réserve. Donc je pense voir plutôt une rotation en fait face à la Real Sociedad, même si le match est quand même important. Parce que bah, il faut quand même maintenir la deuxième place, parce que l'Atlético n'est pas loin non plus derrière. Mais je vois pas un 11 titulaire. Bon, déjà parce que on a aussi Vinicius qui est suspendu par rapport au carton jaune. Donc il y aura quand même de la rotation. Ouais.
Et ben justement, bah tu en parlais un peu, mais c'est vrai qu'il y a l'Atlético surtout directement en Liga qui pose souci. Mais pour approfondir légèrement, est-ce que toi, en tant que Madrienne, alors peut-être que la question y a peut-être déjà une réponse claire, mais est-ce que toi tu crois encore au titre? Parce qu'effectivement, mathématiquement, c'est pas mort en Liga. On voit bien que le Barça, c'est pas le meilleur Barça non plus ces derniers temps, même si effectivement ils viennent de claquer 4-0 au Betis. Toi, est-ce que tu crois encore au titre ou t'imagines que c'est déjà terminé?
Non, je pense que ça sera difficile d'aller chercher le titre. Il y a eu trop de points perdus et puis là, bon, il reste pas beaucoup de matchs. Je vois pas le Barça lâcher autant de points, même si, voilà, ils ont eu quelques difficultés sur les derniers matchs. Mais non, je pense que ça va être très très difficile d'aller chercher le titre.
Oui, parce qu'en plus, c'est ça, c'est que le calendrier sera pas non plus le plus évident, c'est qu'il y a encore quelques rencontres pas faciles pour le Real Madrid. Et puis oui, il y a surtout cette lutte contre Atlético bah, effectivement, qui est toujours dans le coup pour la deuxième place. Donc ce sera la bataille à suivre jusqu'en fin de saison, comme on le disait un peu avant. Et puis bah, je reviens du coup avec toi, Bill, pour parler de ce fameux 4-4 de losange dont tu parlais quelques minutes plus tôt, parce que c'est vrai qu'au final, on a l'impression, tu t'en parlais très bien, qu'il a un peu, alors plus ou moins sauvé la saison de la Real Sociedad, mais on voit bien que depuis que la Real et Imanol ont adopté ce style-là, on voit bien qu'il y a une équipe quand même qui produit un autre jeu, qui est peut-être beaucoup plus efficace aussi. Qu'est-ce qui a changé pour toi par rapport à l'ancienne formule, avec ce milieu à 4 notamment, quand même, qui est d'une qualité assez incroyable en Liga. Donc voilà, toi, est-ce qu'on peut dire voilà que le passage de le changement de système a un peu sauvé la saison de la Real? Et voilà, pareil, si tu as quelques mots à dire sur ce milieu à 4 qui est quand même assez brillant, bah écoute, je te laisse nous dire ça.
Bon, pour répondre à cette question, je vais faire ça vite fait parce que c'est pas non plus le but. Je vais repartir sur le dernier mercato qu'on a fait, mercato d'été. En fait, et même sur la saison dernière, en fait, la saison dernière, on avait on jouait avec en 4-3-3 avec des ailiers. On avait Djanou, ailier droit, et Portou, ailier gauche. Voilà, ouais. Et donc, en fait, le problème, c'est que c'était des joueurs Portou, surtout. Avant, il marquait beaucoup, mais la saison dernière, il a été très peu décisif. Donc, je pense qu'Imano, il s'est dit que voilà, il fallait changer quelque chose. Donc, il s'est dit, on va jouer sans ailier. Et donc, Portou a dû être vendu à Retafe et Djanou n'a pas été prolongé. Et donc, pour jouer sans ailier, il s'est dit que comme on avait un milieu plutôt qualitatif, avec Merino, Silva, Zubimendi, il a rajouté un élément de qualité avec Brice Mendes, même si pour Brice Mendes, quand même, c'est beaucoup plus compliqué en 2023. En 2022, il avait fait un début de saison vraiment de feu. C'était un des milieux les plus décisifs d'Europe. Mais là, depuis en 2023, c'est vraiment plus ça. Voilà, ça, c'est autre chose. Voilà, vraiment, ce passage en caca de 11 ans, ça a permis vraiment d'exploiter cette qualité au milieu. Vraiment, avec David Silva, vraiment en électron libre, bon, maintenant, il fait vraiment ce qu'il veut. C'est lui qui a écrit du jeu. Avec aussi Merino qui est vraiment partout sur le terrain. Même si depuis 2-3 matchs, c'est compliqué, mais Merino, vraiment, à son meilleur, c'est un des meilleurs milieux de Liga. Et Zubimendi, vraiment, on connaît ses qualités. Maintenant, voilà, c'est un jeune espoir, mais qui, vraiment, chaque saison, valide vraiment, ses qualités. Et donc, ça permet vraiment de vraiment avoir le contrôle au milieu du terrain. Et la saison dernière, on avait vraiment du mal offensivement. Et là, cette saison, avec les deux devant, on a Kubo et Soriot qui jouent devant. Des fois, c'est Oyarzabal aussi qui joue devant. Et vraiment, on voit vraiment maintenant un jeu offensif vraiment intéressant. Et Kubo aussi, bon, je vais devoir parler de tout le monde, mais je suis un peu obligé. Mais Kubo, pareil, il fait une saison de folie, vraiment. C'est sa meilleure saison en termes de statistiques. Il n'a jamais été autant décisif les saisons précédentes. Soriot, j'ai un peu plus du mal, mais Soriot, il fait son taf. Mais vraiment, et donc, comme tu le dis, je pense vraiment que le caca de 11 ans a permis à la Real Sociedad de passer un cap. On avait du mal à passer ce cap les saisons précédentes, mais Imanol a su trouver vraiment un système tactique pour vraiment exploiter les qualités de la Real. Après, des fois, on joue en 4-3-3 quand il fait tourner. Par exemple, face à Osasuna, on a joué en 4-3-3 avec Barrenechea sur l'aile et Oyarzabal. C'était Barrenechea et Shaw, Mohamed Ali Shaw à droite.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà. Et donc, voilà, c'était pour faire tourner parce qu'on joue beaucoup de matchs en ce moment. On avait un match mardi dernier, on a rejoué vendredi, on rejoue demain. Bon, ça, c'est un autre débat aussi. Hein. Je trouve ça un peu n'importe quoi, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais bon, pour faire la rotation, il est obligé de jouer en 4-3-3 parce que c'est pour mieux faire jouer Barrenechea et Shaw. Parce que Barrenechea, c'est vraiment un ailier, c'est pas un joueur d'axe. Mais je trouve quand même qu'en 4-3-3, on joue moins bien. C'est beaucoup plus poussif. Là, face à Osasuna, quand même, on a une victoire, une belle victoire, mais c'était poussif. Du début jusqu'à la fin. Donc, alors qu'en 4-4-2-11 ans, je pense qu'on aurait eu plus de maîtrise.
D'accord, ouais, donc effectivement un système qui, comme tu l'expliques très bien d'ailleurs, est très intéressant, c'est qui apporte plus de sérénité, plus de maîtrise. Et puis c'est vrai que on l'a vu en fait sur bon nombre de matchs cette saison, où en fait ce milieu à 4 était aligné. On voit bien que dans beaucoup de rencontres, notamment contre des adversaires directs, ça a été vraiment le différentiel, ce milieu à 4, parce qu'il a une qualité, une rapidité qui est qu'assez peu de clubs en Liga ont, et donc qui effectivement est assez létale. Et on l'a vu dans de nombreux matchs cette saison comment ça pouvait faire des différences. Et effectivement, juste un peu, effectivement, comme tu le dis, Brice Mendes, qui depuis quelques temps est peut-être un peu en dessous par rapport aux autres. Mais voilà, de manière générale, ça reste quand même une très bonne saison que font les quatre joueurs, surtout quand on voit un joueur comme David Silva, qui effectivement a beau avoir 37 ans et qui pourtant est toujours aussi étincelant au milieu de terrain. C'est en tout cas c'est aussi très impressionnant.
Excuse-moi.
Non, vas-y, je t'en prie.
Oui, non, c'est pour revenir sur David Silva, oui, c'est fait une saison impressionnante. C'est pour 37 ans, il fait une saison vraiment incroyable. Il y a une Real Sociedad avec David Silva et une Real Sociedad sans David Silva. Et d'ailleurs, et souvent les trous d'air qu'on a en hiver, c'est quand David Silva, malheureusement, avec son âge, plus à risque au niveau des blessures. Et souvent, quand on a des trous d'air, quand on fait des mauvais résultats, c'est quand David Silva n'est pas là. Parce que vraiment, je pense qu'on est dépendant de lui. On est dépendant de ce joueur. C'est un joueur qui est capable de faire la différence à lui tout seul.
Ouais, puisqu'en plus il y avait déjà un peu effectivement une dépendance les autres saisons, mais on voit bien que cette année, c'est presque paradoxal de le dire en fait, parce qu'il est chaque année, il est donc logiquement de plus en plus vieux, mais c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'en fait, effectivement, plus le temps passe, plus on a l'impression que cette équipe alors, est dépendante, oui aussi, mais que David Silva, en tout cas, a une importance croissante dans cette équipe. Et c'est vrai qu'à 37 ans, c'est voilà, toujours en tout cas un rôle qu'il assume et puis qu'il réalise en tout cas à la perfection jusqu'à présent. Donc, non, c'est un joueur en tout cas qui fait extrêmement plaisir à voir, qui en plus est décisif, tu l'as dit, il y a effectivement une réelle avec et sans lui. Donc voilà, ça explique aussi pas mal de choses. Et puis pour repasser sur le Real Madrid, c'est vrai que bah, c'est un élément qu'on a abordé rapidement tout à l'heure en parlant de la Real, c'est au niveau de la défense, parce qu'on voit bien que ce Real Madrid quand même a une fragilité défensive qui est quand même un peu plus importante que la saison dernière notamment. Bah, il y a qu'à voir déjà les statistiques en Liga, on a 30 buts encaissés pour 32 matchs, c'est presque un but encaissé par match, ce qui peut paraître beaucoup pour une équipe comme le Real Madrid qui bon, et habitué à jouer le haut tableau en Liga. Toi, Angie, pour ta part, comment t'expliques un peu cette différence qu'on voit au niveau défensif entre la saison dernière, on se souvient, le Real Madrid était impérial, notamment avec enfin, on se souvient des matchs de Courtois qui étaient quand même assez bluffants, et de toute une défense qui vraiment voilà, tenait bon, même en Ligue des Champions, on l'a vu à de nombreuses reprises. Comment t'expliques un peu que voilà, le Real Madrid a perdu peut-être cette stabilité défensive qu'il avait la saison dernière, et que cette année, on a du mal à retrouver?
Bah déjà, on est peut-être pas la meilleure défense, mais on a la meilleure attaque. Donc, on peut compenser, on va dire, sur ça. Mais sur le côté défensif, bah, tout simplement parce que bah, cet été, bah, Casemiro part. Donc, on prend Tchouaméni. C'est vrai que voilà, il faut un petit peu un temps d'adaptation. Mais je dirais qu'il n'y a pas que ça non plus voilà, comme problème. On sait aussi qu'au niveau des latéraux, voilà, on a eu quelques soucis. On a Ferland Mendy qui se blesse beaucoup, donc là il est remplacé par un milieu, c'est même pas un défenseur quoi, par Camavinga. Donc il y a pas une stabilité réelle en fait au niveau de la défense, c'est-à-dire que c'est jamais les mêmes, hein. Voilà, on tourne beaucoup, parfois ça peut être voilà Rudiger, Alaba, ça peut être Militao, Nacho, donc il y a déjà c'est même pas stable, je veux dire. Comment dire, on n'en a jamais les mêmes quatre, comment dire, quatre, les quatre qui forment la ligne défensive. Donc c'est assez compliqué. Et puis en ajoutant à ça, voilà, l'adaptation aussi de Tchouaméni, bah, c'est compliqué. C'est compliqué aussi de remplacer Casemiro, faut le dire. C'est pour ça que là, bah, il a changé. Donc il joue avec un double pivot en mettant Kroos et puis Valverde. Mais malgré tout, je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs, on va dire, de concentration. Donc, c'est plus ça. Donc, après, est-ce que. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être un peu plus travaillé. Parce que, bon, des fois, c'est des buts qu'on peut éviter, quoi, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est vrai que c'est souvent des erreurs plus ou moins. Alors, oui, des erreurs en tout cas qui peuvent être évitées. C'est ça, voilà, je te rejoins sur ce propos-là. Et qu'on a vu bah, à plusieurs reprises cette saison. Et tu l'as dit très bien juste avant. Donc je ne vais pas forcément reprendre ton propos. Mais effectivement, c'est ce qui peut expliquer aussi cette baisse, en tout cas, on va dire, pas de niveau, mais peut-être de régime, voilà, en termes de rendement défensif. Et puis bah, du coup, pour enchaîner, alors, tu en as parlé un peu avant, je vais rester avec toi, Angie, juste sur ce point. Tu en as parlé un petit peu avant au niveau des absents et des retours. Est-ce que du coup, il y avait des précisions que tu voulais apporter concernant certains joueurs? Ou tu as déjà tout dit tout simplement avant en parlant des blessures, notamment dans ton propos précédent?
Pour le match face à la Real Sociedad, je pense que comme je t'ai dit, il y aura du turnover. De toute
Ouais.
façon, il n'y aura pas le choix parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui soit ne sont pas en forme ou n'ont pas bien récupéré, soit sont suspendus comme Vinicius. Donc ça va être un 11 assez changé. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va mettre, si tu me poses la question. Je sais qu'il avait récupéré quelques jeunes aussi de la réserve. Parce qu'on a des doutes en fait sur aussi Federico Valverde, donc au milieu, ce qui fait qu'on n'a pas Modric qui est blessé. Donc ça va être compliqué. Est-ce qu'il va faire jouer Kroos? Parce que si tu fais jouer Kroos là, ben, tu seras obligé de faire jouer en Copa plus en Ligue des Champions. Est-ce que justement ça va être utile? Donc il y a beaucoup de questions en fait là-dessus. Donc je vois plutôt vraiment une vraie rotation. Et même par rapport à Benzema, est-ce qu'il va le faire jouer? Ça, c'est aussi une question. On lui a posé la question, je crois, en conférence de presse. Il a dit qu'il verrait selon sa forme. Donc, c'est possible qu'il fasse jouer, mais peut-être hasard, hein, on ne sait jamais.
Oui, parce qu'effectivement, ce que tu dis, il y a deux matchs en fait, surtout très importants qui vont s'enchaîner. Et il y a pas mal effectivement de joueurs dans ce Real Madrid qui ont déjà joué beaucoup, qui en plus, bon, certes, ont toujours un rendement impressionnant, mais qui effectivement ont aussi un certain âge et il faut être à l'écoute de ça en tout cas. Et du coup, bah, de ton côté, Bidule, est-ce que pour la Real, tu as des informations sur les éventuelles blessures ou absences qu'il y aura pour le match de ce mardi? Et puis effectivement aussi, si jamais il y a des retours de joueurs qui n'étaient pas là ces dernières semaines ou matchs précédents, qui vont revenir demain ou pas spécialement.
Bah écoute, c'est parfait parce qu'en fait j'ai vu qu'ils ont posté le groupe juste avant le podcast
Bah, voilà.
derrière ce date, donc voilà, donc au niveau des blessures, donc par rapport aux blessures, il y en a un qui revient dans le groupe, c'est Diego Rico, notre latéral gauche. Voilà, donc demain je sais pas s'il sera titulaire ou pas, parce que là, les derniers matchs c'était Ayan Munoz qui était titulaire, qui faisait son taf, donc je pense pas que Rico sera titulaire demain. Mais en tout cas, il y a de retour dans le groupe. Et notre seul absent important, et bon, lui est absent depuis le début de saison suite à sa grave blessure, c'est Oumar Sadik. Donc voilà, toujours absent du groupe. Voilà. Et aussi Mark Cannant, lui pareil, grave blessure depuis le début de saison. Donc c'est pas étonnant. Mais sinon, le groupe est au complet.
D'accord, ouais, donc effectivement un groupe au complet. Bah, du coup, ça m'amène directement sur la prochaine question. Bah, du coup, l'avant-dernière de ce podcast que je vais d'abord te poser à toi. C'est un peu, bah, voilà, comment tu vois ce qu'on a beaucoup parlé de la Real jusqu'à présent et puis les prochaines semaines. Mais en tant que tel, comment tu vois le match qui arrive demain soir? On sait qu'évidemment, bon, c'est un match qui pourrait, tu l'as dit en parlant de tournoi avant, qui pourrait être, alors pas forcément assuré mathématiquement, mais en tout cas qui pourrait rapprocher un peu plus la Real de la Champions League. Comment toi tu vois un peu ce match? Et puis surtout, voilà, Angie l'a dit aussi, le Real Madrid va vraisemblablement faire des rotations. Est-ce que c'est pas le moment ou jamais, en tout cas pour battre le Real? Et voilà, de manière générale, comment tu vois cette rencontre? Comment tu la vois être capable de basculer du côté de la Real demain soir à Anoeta?
Oui, c'est vrai que ouais, je suppose que oui, que la Real va faire de la rotation demain pour. Enfin, le Real Madrid plutôt va faire de la rotation par rapport à la finale de la Coupe, ce qui est plutôt logique. Après, même si ça va être une équipe B du Real Madrid, par exemple, bah, ça reste le Real Madrid. C'est des joueurs quand même de qualité, c'est des joueurs, ils sont capables de faire la différence à eux tout seuls. Donc faut pas s'attendre non plus à un match facile. Moi, je m'attends pas du tout à un match facile. Ça va être un match compliqué. Je connais les équipes d'Ancelotti aussi. C'est des équipes qui aiment bien des fois subir pour mieux contrer. Donc, je m'attends vraiment. Même si le stade va être plein, je pense qu'il y aura une grosse ambiance. Je pense qu'on va mettre beaucoup d'intensité parce que c'est des joueurs qui vont être morts de faim, qui vont vouloir vraiment créer un exploit en cette fin de saison pour mieux aborder la fin de saison. Mais je m'attends quand même à un match compliqué. Le Real Madrid ne va pas se laisser faire. Ils ont aussi une deuxième place à défendre. Donc ça va être je pense que voilà, ça va être un match où on va plutôt quand même avoir une maîtrise, mais où on va avoir son mot à dire aussi, le Real Madrid, bien sûr. Voilà, mais après quand même, je pense quand même que le Real Madrid sera plus prenable que d'habitude. Même si ça reste le Real Madrid, ce sera un Real Madrid plus prenable. Donc je suis plutôt confiant pour faire un résultat demain, mais je reste sur mes gardes quand même. Voilà, je me dis pas, on va en mettre 5-0, c'est bon. C'est le Real Madrid. C'est voilà, c'est une équipe qui demain qui peut gagner 2-0 en doublé de Rodrigo. Et je peux me dire, ah, super, je m'attendais à faire un résultat. Et voilà, c'est un grand club. C'est un club qui est capable de faire des résultats, même quand ils sont en difficulté, quand ils ont beaucoup d'absents. Donc ouais, je me méfie quand même.
Oui, ce que c'est en plus le propos que tu tiens, c'est ce que beaucoup de supporters aussi qui sont passés par ici cette saison face à un Real Madrid qu'on annonce en rotation. Enfin, beaucoup de supporters en tout cas ont dit la même chose. Et effectivement, ça se comprend parce qu'on a vu bon nombre de matchs cette saison et puis les autres saisons d'ailleurs aussi, où le Real était certes en rotation, mais jouait quand même au sérieux. Et effectivement, on voit la qualité même de joueurs qui sont sur le banc et qui peuvent faire des différences. Donc voilà, ça coïncide en tout cas parfaitement à ce que tu nous dis. Puis c'est vrai que oui, la Real, comparé au Real Madrid qui donc va enchaîner aura après ce match-là une petite pause de 10 jours on va dire puisqu'en fait il n'y aura pas de championnat jusqu'au week-end de la semaine suivante donc voilà ça permettra aussi demain peut-être de donner pas mal de mettre un 11 voilà, qui peut être pas mal enfin, qui peut être titulaire avec voilà en lâchant beaucoup d'énergie pour après avoir le temps de se reposer pour la fin de saison qui, elle, sera pareil assez rythmée avec les matchs qui vont s'enchaîner. Mais en tout cas, voilà, c'est noté pour la façon dont tu voyais ce match. Et puis, bah, du coup, Angie, je vais te poser la même question, tout simplement. C'est vrai que, bon, tu l'as dit, le Real Madrid a fait retourner. Est-ce que toi, tu t'attends quand même à voir un Real Madrid qui pose des soucis à la Real, plus un Real Madrid qui subit mais qui joue en contre, pas spécialement? Comment toi, tu vois un peu cette rencontre de ton côté en tant que supportrice du Real Madrid?
Bah déjà, on joue à Anoeta, donc forcément, on connaît un peu ce stade. Donc, ça ne va pas être un match facile, je ne pense pas. Puis, comme tu as dit, il y aura aussi en plus pas mal de rotations du côté du Real Madrid. Ça va être un match assez serré, parce que, bah, on a une équipe qui va tout faire pour rester dans le top 4, déjà. Et puis, de l'autre côté, nous aussi, on a quand même, comme j'ai dit, on doit garder aussi cette seconde place, donc ça va être un match quand même assez compliqué. Si tu me demandes ce que je vois, je vois même un match nul, c'est même possible.
Et bien justement, tu vois, on va y venir tout de suite, depuis je vais te laisser la parole, c'est les pronostics. Ben voilà, quel pronostic tu donnerais du coup pour le match de ce mardi soir?
Je viens de le dire, match nul et je pense qu'il y aura quand même quelques buts. Et je vais aller sur du 1-1. Et
Ah, ok.
ouais, sur du 1-1.
Ok, ça marche. Donc c'était le score surtout en plus du match qui m'intéressait, mais du coup ça marche match 1. Bisous de ton côté pour ce match, tu donnes un pareil quoi comme pronostic du côté du match de la Nauta.
Allez, j'ai envie d'être optimiste. Moi, je dirais victoire 2-1.
Victoire 2-1. Ok, très bien. Bah, c'est cool. On aura au moins des. On aura un peu tout, et puis bah, moi si je vais partir, pareil sur un match nul, alors pas sur le même score, je vais plutôt dire 2 partout, du coup 2-2, parce qu'effectivement j'imagine un match avec des buts, les deux équipes en même temps savent que bah, voilà, elles ont leurs enjeux respectifs, mais aussi ce sont des équipes qui voilà, vont proposer du jeu dans tous les cas, surtout la Suède à domicile demain, effectivement comme on le disait avant, avec un public qui sera présent en nombre. Donc, en somme, un beau match qui nous attend ce mardi soir avec effectivement toujours pareil beaucoup d'importance pour les deux équipes. On arrive à la fin du coup de ce numéro sur ce match en semaine qui effectivement est un des derniers gros chocs de cette fin de saison, mais qui reste voilà très intéressant puisqu'on parle quand même de deux équipes qui sont pour le moment dans le top 4. Alors le Real Madrid y restera, la Real Sociedad est bien partie aussi pour y rester, mais c'est vrai qu'il y aura encore une fin de saison à négocier. Je te remercie du coup, Bidou, d'être venu nous parler de la Real Sociedad dans ce podcast. C'était un grand plaisir de pouvoir t'accueillir et puis d'échanger autour de cette rencontre avec toi.
C'est réciproque, c'était un grand plaisir, merci pour l'invitation, un grand plaisir de venir à parler de la Real Sociedad. Donc voilà, et si je dois le refaire à l'avenir, je le referai. Voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir, et aussi de voir des passionnés comme ça de Liga faire des podcasts assez régulièrement. Franchement, moi je trouve ça vraiment bien, ça permet de voir un peu de diversité, de ne pas voir toujours les mêmes clubs, de voir un peu tout le monde.
Ça marche, bah écoute, merci beaucoup, puis on n'hésitera pas à te réinviter pour parler de la Real prochainement. Et puis bah, du coup, merci à toi aussi, Angie, d'être venu nous parler du Real Madrid.
Ben je t'en prie, en tout cas, ça a été un plaisir encore une fois, et puis ben j'espère à la prochaine.
Exactement, et puis bah, du coup on espère que ce numéro aura plu pareil à tous les auditeurs qui l'ont écouté, que voilà ce qui aura été en tout cas évoqué sera en phase avec le match de demain. Et puis donc du coup on vous souhaite une bonne troisième journée de Liga, un très bon match, et puis on se retrouve en tout cas très bientôt pour parler Copa, parler Ligue des Champions, pour parler championnat espagnol évidemment cette fin de saison qui arrive à grands pas en tout cas. Il reste à peu près un mois de compétition, mais on sait que les matchs vont s'enchaîner assez rapidement. Et c'est ce qu'on décortiquera en tout cas dans les prochaines semaines. En tout cas, très bon match à tous et à très bientôt.